BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
Tous, soyez les bienvenus sur BFM Business. J'espère que vous allez bien. On est désolé, on a un léger problème technique, donc changement de studio aujourd'hui. J'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. C'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Et c'est un club BFM Crypto exceptionnel aujourd'hui, puisque c'est une émission de débat ayant pour thème « Est-ce que Bitcoin est un mirage ou une révolution monétaire ?» Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Jean-Marc Daniel en plateau. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Jean-Marc, vous êtes économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School et éditorialiste ici à BFM Business. Quand j'ai dit à Jean-Marc ce matin que ça faisait 15 ans que le white paper de Bitcoin avait été publié, il a préféré fêter un autre anniversaire, puisque ce sont aujourd'hui les 15 ans de l'arrestation de Bernard Madoff, qui a eu lieu le 12 décembre 2008. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. On attend Alexandre Stachenko qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et non, Jean-Marc, il n'est pas en prison, parce que Jean-Marc était un petit peu inquiet, avait peur qu'Alexandre soit emprisonné. Jean-Marc.
Absolument, absolument, puisque les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, qu'on prétend que ce sont des monnaies, ça va contre la loi. Donc à partir de ce moment-là, la loi a des sanctions.
D'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous pouvez nous expliquer un petit peu.
Oui, absolument, je suis venu avec le code monétaire et financier, qui est l'ensemble des textes rassemblés, comme toujours dans un code, l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement de la monnaie et des finances en France, et donc en particulier le tout premier article du code monétaire et financier, qui est l'article L111, précise que la monnaie en France, l'unité monétaire, c'est l'euro. Et seul l'euro a vocation à être considéré comme une monnaie sur le territoire national.
Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, ce n'est pas du prix du Bitcoin dont on va parler. Même si, Jean-Marc, t'as pas manqué de me rappeler qu'aujourd'hui, le Bitcoin perdait 1%, mais, petite précision, on est toujours à plus 150% sur un an. D'abord, Jean-Marc, en attendant qu'Alexandre nous rejoigne, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, Alexandre Stachenko va nous rejoindre dans quelques instants pour ce grand débat sur le Bitcoin. Jean-Marc, vous qui êtes professeur émérite à l'ESCP Business School, si vous voulez bien, rappelez-nous comment marche l'émission d'une monnaie. Je dis ça et à l'instant, Alexandre Stachenko nous rejoint.
Bloqué dans le métro.
Avec de la lecture. Non, je disais à Jean-Marc, vous n'étiez pas en prison.
Voilà. Pas encore.
Parce que Jean-Marc s'inquiétait pour vous ce matin.
J'espère.
Dis, mais est-ce qu'Alexandre va pouvoir venir? Parce que, on a un petit peu peur pour lui. Jean-Marc est venu avec
une présomption d'innocence en démocratie.
Avec son code monétaire et financier. Voilà,
mais je suis venu avec mes armes nucléaires aussi.
Magnifique. Bon, bienvenue, messieurs. Tout le monde est là. On est au complet. Je disais Alexandre. D'ailleurs, petite présentation d'Alexandre quand même pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas. Alexandre, vous êtes à ma droite et en 2015, vous cofondez et devenez directeur général de Blockchain France. En 2017, la société devient Blockchain Partner. Et en 2021, Blockchain Partner rejoint les équipes de KPMG France où Alexandre prend ses fonctions de directeur blockchain et crypto. Et aujourd'hui, et ça va plaire à Jean-Marc, vous êtes auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Voilà, bienvenue Alexandre, bienvenue Jean-Marc.
Merci.
On commence et on commençait par avoir un petit rappel, grâce à Jean-Marc, qui je le disais, est professeur émérite à l'ESCP Business School, sur comment on émet une monnaie, Jean-Marc, parce qu'on va repartir de la base, on va pas tout de suite dire que le Bitcoin c'est interdit, on va essayer de voir à quelle problématique essaie de répondre le Bitcoin, comment, c'est quoi le mécanisme, Jean-Marc, pour émettre une monnaie aujourd'hui?
Alors, la première chose que l'on doit constater, c'est que les économistes ne donnent pas de définition de la monnaie. C'est-à-dire le mot lui-même ne traduit pas un concept. Le mot monnaie provient d'un site à Rome où étaient frappées les pièces de monnaie. Et donc, ce site était au départ consacré au culte de Junon. Et Junon, elle est moneta, ce qui veut dire en latin qu'elle prévoit l'avenir. Donc, la monnaie, c'est quelque chose qui n'est pas défini par son propre nom. Alors, c'est quelque chose qui est défini par ses fonctions. On attribue en général trois fonctions à la monnaie. Il s'agit de permettre l'échange, c'est-à-dire que sinon, c'est du troc. Et le troc, c'est très compliqué à réaliser. Et donc, au travers de la monnaie, on peut différer les échanges matériels. C'est-à-dire, dans un premier temps, grâce à un premier bien que l'on vend, on obtient de la monnaie. Et puis ensuite, avec cette monnaie, on va pouvoir acheter un deuxième bien, mais pas de façon simultanée. La deuxième chose, le deuxième rôle, c'est qu'on peut hiérarchiser la valeur des biens en émettant un prix. Donc la monnaie, ça permet d'avoir un prix. Et donc la monnaie, elle suppose qu'il y ait une forme de stabilité dans l'expression de ce prix, que ça ne bouge pas tout le temps. C'est un des problèmes sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Et puis le troisième élément, c'est que la monnaie, elle a comme enjeu de préserver sa capacité d'action dans le futur. C'est-à-dire que quand on a du pouvoir d'achat à un instant donné, il faut, grâce à la monnaie, qu'on le retrouve dans les mois ou dans les années qui viennent. Alors à partir de là, comment fonctionne la monnaie? Quel problème ça pose? En fait, assez vite, il y a deux problèmes qui sont posés pour le plan monétaire. Le premier, c'était l'acceptation d'un outil comme objet monétaire. C'est-à-dire, est-ce que l'objet qu'on utilise pour faire de la monnaie, l'objet qui va servir à remplir ses missions, est reconnu par la population? Et le deuxième, sinon, c'est de la fausse monnaie. Et il y a des moments où la monnaie normalement officielle disparaît. Il y a tout un tas de pays où la monnaie officielle a disparu, elle est remplacée par un autre objet. Et la deuxième chose, c'est est-ce que la quantité de monnaie, donc il y a la qualité de la monnaie, et puis il y a la quantité de monnaie, est-ce que la quantité de monnaie est en conformité avec les besoins de la population, avec les besoins de l'économie? Et donc, c'était un des grands débats sur l'or. C'est-à-dire que vous avez de la croissance économique d'un côté, puis vous avez de la géologie d'un autre côté. Est-ce que la géologie est en conformité avec les attentes de l'économie? Bon. C'était d'ailleurs la grande critique. C'est une des raisons pour lesquelles les Américains, officiellement, ont sorti l'or. En réalité, c'est parce que l'or était une contrainte dans leur vie quotidienne et dans leur politique économique. Mais le discours officiel, c'était l'or, ça ne sert à rien. Et l'or, ce n'est pas en réalité quelque chose qui est conforme à la vie économique, puisque on trouve des mines d'or. Alors, à ce moment-là, il y a de l'inflation. Et puis après, pendant des années, il n'y a plus de mines d'or. Donc, les prix se mettent à baisser, il y a de l'inflation. Donc, ça perturbe le système économique. La monnaie actuelle, elle est créée par les banques, et je vais en rester là, c'est-à-dire que ce qui va créer de la monnaie, c'est lorsqu'une banque va consentir un crédit à quelqu'un. Quand vous recevez de l'argent sur votre compte courant, parce que la monnaie à l'heure actuelle, elle est essentiellement numérique, l'essentiel de ce que vous recevez, c'est sous forme de lignes informatiques gérées par des banques. Lorsque nous recevons de l'argent, ça vient de chez quelqu'un, c'est-à-dire que là, c'est BFM Business qui vous paie, et donc moi, c'est le service des pensions de l'État qui me paie, et donc on prend de l'argent sur leur compte, et mais sur le mien. Bon, très bien. Donc là, il n'y a pas de création de monnaie. Et puis, il y a des moments où la monnaie va être créée par les banques. Les banques, elles vont mettre sur votre compte des sommes d'argent qui n'existaient pas auparavant. Ça s'appelle un prêt bancaire. Et c'est au travers de ce prêt bancaire que se crée la monnaie. Pourquoi c'est supposé être efficace? Parce que les banques prêtent à des gens qui vont créer de la richesse. C'est-à-dire que chaque fois qu'elles créent de la monnaie, en face, normalement, quelqu'un prend l'engagement de créer de la richesse. Un problème, qui est le problème essentiel pour moi, c'est que depuis quelques années, elles se sont mises à prêter à un agent économique qui ne crée pas de richesse. Et elles le font.
C'est
exactement.
C'est bien, mais vous allez peut-être voir. Finalement, je pense que l'État. Sur beaucoup de points, c'est possible que vous soyez d'accord.
Le vrai problème de ce qui se passe, c'est que nous avons un système monétaire qui est organisé autour de banques commerciales qui prêtent, avec un garde-fou qui est la Banque centrale, avec un dispositif juridique qui encadre ce système qui le protège et qui le définit, donc le code monétaire et financier ici. Le problème de ce système, c'est qu'à mon avis, il a une faille, c'est qu'il n'est équilibré que si on prête à des gens qui créent de la richesse, et ce système a été dévoyé en se mettant à prêter à des gens qui ne créent pas de richesse, qui sont les États. Et donc, il y a un problème, mais le problème n'est pas soluble dans la création d'un nouveau dispositif. Il est soluble dans l'acceptation du dispositif actuel et dans ses principes.
On va y venir. Donc, Jean-Marc a posé les bases de la création monétaire.
Il manque des choses.
Et mais justement, vous allez compléter, Alexandre. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit là? Est-ce que vous avez des choses à ajouter?
Oui, je suis d'accord. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Jean-Marc s'est arrêté à « c'est créé par les banques » et je n'en dirai pas plus. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le plus, justement. C'est d'où sort ce privilège monétaire? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de créer de l'argent? Qui est là pour déterminer qui va créer de la richesse et qui ne va pas en créer? Et donc, c'est une critique qu'on fait souvent à Bitcoin en disant qu'il n'y a rien derrière Bitcoin. C'est une critique qui est en réalité adressé au système monétaire actuel, le système dit fiat, qui d'ailleurs dit bien son nom, hein. Fiat, ça veut dire ainsi soit-il, on décrète que ça vaut quelque chose, mais il suffit d'aller sur le site de la BCE et on ne trouve rien d'autre qu'une phrase qui nous dit que la monnaie fiat n'a pas de valeur intrinsèque, elle est acceptée par les agents économiques parce qu'on fait confiance dans la banque centrale. Alors, petit problème dans le dispositif, c'est que vous n'avez pas le choix de faire confiance à la Banque centrale, puisque précisément, ce petit livre rouge, et je ne connaissais pas l'adoration de Jean-Marc pour les petits livres rouges, les gros livres rouges, celui-là, c'est complètement différent. Et donc, le problème qu'on a, c'est que justement, il n'y a rien derrière cette monnaie-là, c'est un privilège qui est accordé aux banques de pouvoir dire à discrétion qui crée de la valeur ou qui n'en crée pas. Et en fait, ce système-là, derrière, il est ce qu'il est, c'est-à-dire une promesse. La promesse de la Banque centrale qu'on atteindra la cible des 2% d'inflation.
Ah, et donc Jean-Marc, déjà, pour ce qui vient d'être dit là, déjà, sans parler de l'inflation, par rapport au fait que ce soit les banques.
Là, je rentrais à peine dans l'entrée. Hein.
Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, il y a une confusion dans ce qui vient d'être dit entre la banque centrale et les banques commerciales. La banque centrale, c'est pas elle qui crée de la monnaie, c'est pas elle qui.
Elle accorde le privilège de le faire.
Elle accorde le privilège à un certain nombre d'institutions. Et ces institutions ont comme caractéristique d'être en concurrence. Elles sont plusieurs, elles sont nombreuses sur la place.
Il y a 5 banques en France, hein. C'est pas la plus grosse concurrence qu'on puisse trouver.
Oui, enfin, il y a de la concurrence si on n'est pas content. Bon. Et ensuite, elles ont leur métier, c'est effectivement de créer de la monnaie en accordant des prêts. C'est-à-dire, le véritable enjeu de ces banques, c'est de prêter à des gens qui vont être en capacité de rembourser. C'est-à-dire que les banques, elles sont là parce que c'est, comme elles sont privées, si elles se trompent, si elles se mettent à prêter à n'importe qui...
Bien, l'État les sauve.
Et comment ?
L'État les sauve.
Ah oui, mais ça, c'est une perversion du système. Je pense que le système, lui, encore une fois, est un système... Et d'ailleurs, il ne les sauve pas toujours parce qu'il y a des banques qui font faillite. Et donc, le véritable enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que les banques soient responsabilisées. Alors... C'est vrai que l'État en sauve certaines. C'est le too big to fail. Oui. Et donc, je sauve les banques, mais pas les banquiers. C'est-à-dire qu'il y a...
Elles sont toutes systémiques en France, maintenant. Donc, on les sauverait toutes.
Oui, mais sauf que les gens qui prennent les décisions sont des gens qui remettent en cause leur propre destin. C'est-à-dire que je sauve les banques et pas les banquiers, c'est un principe dans lequel, effectivement, si vous vous trompez dans les prêts que vous consentez, à partir de ce moment-là, vous finissez par sauter. Et donc, concrètement, c'est un métier d'être banquier. Et le but des banquiers, c'est effectivement de trouver, au travers des gens qui viennent les voir, les créateurs futurs de richesses. Le crédit, c'est un moyen, effectivement, de porter l'avenir. Et la banque, elle fait ça. Et si elle se trompe, elle finit par perdre des clients. Si elle se trompe, ses dirigeants sautent. Si elle se trompe, elle finit elle-même par disparaître. Et donc, il y a une sanction par la concurrence. La banque centrale, elle est pas en situation de concurrence, elle ne saute pas, mais elle ne prête pas aux particuliers.
Elle fait du rachat d'actifs, c'est pareil.
Elle fait du rachat d'actifs. Mais alors justement, je suis assez d'accord avec ça. Le véritable problème qui s'est posé et qui a justifié à un moment donné l'apparition de ces crypto-actifs, ça a été de dire la Banque centrale est sortie de sa mission historique. Mais l'enjeu, c'est est-ce que la bonne solution, c'est de dire, bon, puisqu'elle est sortie de sa mission historique... Bon, mais on va faire n'importe quoi.
Donc, quelle est sa mission,
notre désaccord de fond, parce qu'on est dessus, c'est que je pense que Jean-Marc fait preuve de candeur, d'une certaine façon, en pensant que c'est une perversion du système, mais qu'on peut le corriger. Moi, ce que je pense, c'est que c'est dans la nature du système de tendre vers ça. Et donc, cette mission qu'ont les banques centrales de tendre vers 2% d'inflation en utilisant des divers moyens... conventionnels, les taux d'intérêt, puis non conventionnels, on rachète tout ce qui passe. Je précise ici, par exemple, que la BCE rachète aussi des titres privés maintenant. Donc, il y a des gens qui ont accès directement, pourquoi pas, au soutien de la puissance publique. Dans cette promesse-là, en fait, elle est viciée à deux égards. Le premier, c'est que je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donne le pouvoir monétaire à quelqu'un sans contrainte, sans garde-fou, l'or était un garde-fou. On l'a dit tout à l'heure, les Américains n'aimaient pas ce garde-fou parce qu'ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, notamment Great Society, la guerre du Vietnam, etc. C'était plus simple de ne pas avoir de garde-fou. Donc déjà, on n'a aucun exemple qui ait fonctionné dans l'histoire sur le long terme où on a une banque centrale qui gère de manière, en bon père de famille, d'une certaine façon, ce taux. Donc, et le deuxième problème, c'est que le visé de l'inflation est en soi vicié. D'ailleurs, ce 2% sort de nulle part. Personne ne sait comment... C'est comme les 3% de Maastricht, hein, ils sont sortis d'un chapeau. Les 2% sont sortis du même chapeau et on peut se demander légitimement pourquoi pas zéro. En règle générale, la réponse qui vient, c'est de dire parce que la déflation, ça fait peur. Parce qu'en théorie économique, il faut inciter à la consommation puisque ça favorise le PIB et la croissance. Mais c'est vicié parce qu'on choisit, et c'est la phrase de Christine Lagarde, c'est pas la mienne, elle préfère préserver l'emploi à l'épargne. Donc le système est vicié par nature. Pour moi, ce n'est pas juste une sortie de route qu'on peut corriger. C'est que c'est dans l'ADN de ce système d'être une faillite à tous les niveaux. Je pourrais détailler évidemment, mais économique, politique, morale et environnementale aussi.
Donc vous partagez tous les deux que le système monétaire actuel n'est pas parfait, qu'il a des failles. Jean-Marc, vous partagez ça.
Mais ce que je considère, ce n'est pas que ce soit dans son ADN, pour parler que le langage moderne, c'est défaut. Alors, il y a effectivement, les 2%, c'est absurde. Vous ne pouvez pas dire à des épargnants que l'objectif que l'on confie à l'autorité monétaire...
C'est de
le détruire leur épargne à hauteur de 2% par an. Et donc ça a été une erreur qui était une erreur grave. Et une erreur qui n'existait pas à l'époque de l'étalon or. Effectivement, le véritable problème, c'est que l'étalon or a explosé parce qu'il n'y avait pas de conformité entre la quantité d'or et la quantité de croissance. Et donc, le système qui a été mis en place par la suite était un système qui avait des atouts, qui est protégé par la loi parce qu'il a été l'objet d'un consensus, mais qui avait des défauts. Et je pense qu'il faut corriger ces défaut. Parce que la population tient à ce système. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ce système...
Forcé par la loi.
Oui, mais quand la loi n'est pas capable d'arriver à imposer ce système, il y a beaucoup de pays où la loi, ce qu'on appelle le privilège d'émission, a sauté parce que effectivement le système a atteint une telle incompétence par rapport à les objectifs qu'on lui a signés, il a fini par sauter. Les populations reviennent vers le système.
Alors là-dessus, vous êtes d'accord, vous partagez tous les deux le fait
anecdote,
qu'il y a...
une anecdote
ils reviennent vers le dollar, ils reviennent vers les monnaies qui sont déjà...
Sur le 2% d'inflation, l'anecdote, c'est que... En fait, souvent, quand je dis 2%, c'est beaucoup, on me dit, bon, ça va, ça m'impacte pas dans mon quotidien. Pour vous donner une anecdote, on parle notamment juste après les grandes découvertes, quand les Espagnols ont trouvé tout ce qui était de mines d'or et d'argent dans le Nouveau Monde, on a parlé à ce moment-là de révolution des prix. C'est-à-dire que le siècle qu'on définit par la révolution des prix, quand on s'intéresse à ce que ça, l'inflation qui s'est traduite dans ces siècles-là, c'était 2% par an. Donc ce que les gens appelaient à l'époque révolution des prix, parce que ça faisait 1500 ans que pour eux un prix c'était stable, aujourd'hui on l'appelle la normalité. Donc ce n'est pas normal 2%. Donner l'objectif, comme le disait Jean-Marc, à une institution de détruire l'épargne des citoyens, ce n'est pas normal.
Bon, là-dessus, vous êtes d'accord, et ça fait plaisir de vous voir d'accord là-dessus. Maintenant, on va parler des solutions. Et la question, là-dessus, vous allez peut-être être moins d'accord, mais encore que, on va voir... Est-ce que Bitcoin peut être une alternative monétaire en devenir, Alexandre, face à tout ce qu'on s'est dit là?
Oui, alors j'aurais pu sortir ma première arme nucléaire que Jean-Marc connaît, c'est évidemment Hayek, la route de la servitude. Pour le terminer, le point précédent, c'est que justement, quand on est dans un système comme celui-ci, où il y a une forme de boulimie du système monétaire et une irresponsabilité, parce que c'est à ça que conduit ce système monétaire, à favoriser le court terme, le présent, etc., bah forcément, derrière, on tombe dans le clientélisme, dans l'irresponsabilité, dans le repousser les problèmes pour les enfants, parce que la dette, c'est toujours plus facile. Et donc, on rentre précisément dans ce que ce monsieur écrivait, la route de la servitude, c'est-à-dire la route tranquille, mais certaine, du totalitarisme. Pourquoi Bitcoin, c'est une solution potentielle? Parce que quand on s'intéresse justement à ce qu'est la monnaie, alors Jean-Marc a raison, on demande à deux économistes, ils vont donner deux définitions différentes. Pour certains, on en revient à ce que disait Jean-Marc sur la définition d'Aristote, les trois caractéristiques de la monnaie, unité de compte, moyen d'échange, etc., etc. Mais même si on regarde ça, je suis taquin, réserve de valeur, pas mon œil. Si vous me donnez le choix entre un actif dont je peux être certain qu'il va perdre du pouvoir d'achat tous les ans, je vous prends la monnaie, l'euro. L'euro, je suis sûr, je peux attendre 10 ans, tous les ans, je vais perdre du pouvoir d'achat. Donc j'ai connu mieux comme réserve de valeur. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un problème de définition de la monnaie, et quand on essaye de revenir à c'est quoi une bonne monnaie, pourquoi est-ce qu'on a de la monnaie, moneta, le futur, on veut se projeter, on travaille, on a un surplus, qu'est-ce qu'on fait si on ne veut pas consommer ou investir? Eh bien, on doit avoir un médium qui nous permet de transporter cette épargne, ce travail, cette énergie dans le temps et dans l'espace. Et pour ça, il se trouve que certains matériaux ont émergé parce qu'ils avaient des caractéristiques intéressantes. Ils sont rares, ils sont divisibles, ils sont transportables, pour l'or, il est inoxydable, donc il dure dans le temps. Et donc, finalement, on se retrouve de manière organique avec plusieurs endroits dans le monde qui, bizarrement, élisent tous l'or comme étant la meilleure monnaie possible, en tout cas la plus dure. Bitcoin réunit ces caractéristiques. Il est rare, il est transportable, il est numérique, donc il est plus transportable que ce que vous voulez. Essayez de faire un virement le vendredi à 18h, bon courage, on attend une semaine pour l'avoir. C'est pas le cas avec Bitcoin. Il est, comme j'ai dit, il est scalable, il est tout ce qu'on veut. Mais il lui manque ce dernier point qui fait la monnaie, c'est le consensus social. Parce que, évidemment, un outil qui disposerait de toutes ces caractéristiques, j'allais dire physiques, mais en l'occurrence c'est dans le numérique, mais en tout cas technique, mais qui ne disposerait pas du consensus social, eh bien il est condamné à ne pas être une monnaie, à être au mieux une réserve de valeur. Les gens l'achèteraient pour se sécuriser. Et qu'est-ce qu'on constate sur Bitcoin? Là, effectivement, il peut y avoir un débat parce que ça regarde le futur. Donc moi, je ne connais pas le futur, Jean-Marc ne le connaît pas, Maureen ne connaît pas. Mais moi, je constate que quand je regarde les 15 dernières années, Bitcoin souffle sa 15e bougie, il a été appelé mort tous les ans par tout le monde, il est attaqué par littéralement la planète entière. Et pourtant, tranquillement, il fait son petit chemin. Aujourd'hui, c'est presque 500 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est-à-dire plus que n'importe quelle zone monétaire à part l'Inde et la Chine. Donc, la tendance me laisse penser que ce consensus social, bien qu'il ne soit pas présent aujourd'hui et encore, ça dépend où, Liban, Argentine et autres, je pense que vous avez plus de probabilité de trouver quelqu'un qui accepte le Bitcoin qu'en France, quand on se projette un petit peu dans le futur, ma conviction, ça relève de la conviction, c'est qu'effectivement, ce consensus social, il n'est pas impossible à construire.
Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? En gros, ce que dit Alexandre, c'est qu'il manque uniquement le consensus social. Si on a le consensus social sur Bitcoin, ça peut être la solution. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense qu'on n'aura jamais le consensus social sur ce type d'objet. Pour trois raisons. D'abord, parce qu'encore une fois, le consensus social va se heurter à l'état de droit. Et donc, le système en place... qui est un système qui, je maintiens, a ses défauts et a failli, le système est capable de se réformer. Et donc, s'il est attaqué, normalement, ce qu'il devrait faire, c'est se réformer. Revenir à l'idée que ce n'est pas 2% mais 0%, revenir à l'idée qu'il est là pour financer l'avenir et pas pour financer la gabegie publique, etc., etc. Or, il prend progressivement ce genre de problème. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de reprises en main qui commencent à apparaître. Et je pense qu'un des véritables enjeux maintenant, c'est que les banques centrales comprennent qu'elles auraient été rendues indépendantes il y a 30 ans pour satisfaire à une mission précise. Or, vous écoutez ce que disent un certain nombre de gens, que ce soit Powell aux dernières réunions à Stockholm, que ce soit Madame Lagarde de façon plus confuse et moins nette, parce que je pense que ce n'est pas forcément très net dans sa tête, mais disent bien qu'effectivement, le système qui a été le quantitative easing, ce système qui a été le dévoiement de leur mission, est un système qu'il faut maintenant considérer comme étant un système pervers. Est-ce que Bitcoin va retrouver le consensus social? Deuxième élément, l'expérience montre que non. La masse salariale, la masse monétaire mondiale représente à l'heure actuelle 100 fois la masse des crypto-monnaies. Tout
oui, mais l'adoption, Jean-Marc, du Bitcoin depuis 15 ans, elle est croissante.
Oui et non, parce que vous regardez les pays où ça a disparu, la monnaie où la monnaie a disparu, eh bien, dans ces pays-là, les gens se précipitent vers le dollar, ils se précipitent vers le système à l'ancienne.
Mais parce que le dollar existe depuis beaucoup plus longtemps, il faut le temps que ça s'installe. Bitcoin, si on parle d'actif, c'est un actif extrêmement jeune, 15 ans pour un actif.
Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que le top 3, encore une fois, le top 3 des pays où l'adoption est le plus forte de Bitcoin, c'est l'Inde, c'est le Nigeria, c'est le Vietnam. Le Nigeria, leur monnaie est en train de s'effondrer complètement. On a perdu, je crois, 80 ou 90% en l'espace de 2-3 ans. Et donc les gens, maintenant, au Nigeria, l'adoption, elle est entre 40 et 50%. Donc oui, si vous avez accès au dollar aujourd'hui, bah, ruez-vous dessus. Mais déjà, il vous faut un compte en banque, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans ces endroits-là. Donc il y a un arbitrage qui se fait selon chaque lieu, et personne ne s'attend à ce qu'en 15 ans, Bitcoin ait mangé le monde. Ce n'est pas du tout le propos. Le propos,
c'est
de dire
que ça réunit les caractéristiques. Ils vont tout de suite vers le dollar. Et vous allez dans les rues de Lagos, les gens, ils vous abordent en dollars. Vous allez dans les rues. Ce que dit le président de la République, qui vient d'être élu en Argentine, il dit
Javier Milei.
Oui, je vais me débarrasser du système ancien, parce que la banque centrale telle qu'elle a fonctionné, dans un espèce de mélange d'incapacité à stabiliser le taux de change et d'incapacité à refuser à l'État les crédits qu'il réclamait, la banque centrale a failli.
Il veut supprimer la banque centrale, et il dit que le Bitcoin pourrait être une solution.
Je sais, la solution, c'est le dollar. Pourquoi il dit c'est le dollar?
Il a raison. Aujourd'hui, c'est pas assez mature pour prendre un pays comme l'Argentine.
C'est le dollar parce que la population a choisi le dollar, parce que dans les rues de Buenos Aires, les gens sont en dollars. Donc vous allez dans les, on parle du Nigeria, le pays où il y a le plus d'inflation en ce moment, c'est le Zimbabwe. Vous allez dans les rues d'Harare, c'est pas des bitcoins, vous allez, c'est des rentes sud-africains, parce que ce qu'ils cherchent, c'est la monnaie, une monnaie qui soit assise sur un système qui est un système stable et cohérent, et pour eux, c'est l'Afrique du Sud et le rende. Le troisième élément pour lequel, c'est que derrière le mystère, l'or, l'avantage de l'or, vous l'avez dit, c'est que l'or, on pouvait pas le...
Falsifier.
Il n'y a pas de fausse monnaie possible avec l'or. Alors, il pouvait y avoir des gens qui rognaient, qui enlevaient un petit morceau, qui réduisaient un peu le poids. Tous les empereurs romains faisaient ça. Tous les rois du Moyen-Âge grattaient un peu. Et puis, bon. Mais il y avait quand même l'idée que, quelque part, l'objet était extérieur à une décision humaine. Dans toute l'histoire du fonctionnement des crypto-monnaies et tout ça, il y a quand même des programmes, il y a des gens. Alors, on dit, oui, mais vous avez une multitude de... Au travers de la blockchain, une multitude de gens qui peuvent vérifier ce qui se passe. Vous avez une information.
C'est extrêmement transparent.
Mais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y a eu un sommet à Tokyo, je crois, entre les autorités américaines, japonaises et sud-coréennes, parce qu'ils étaient en train de se demander si les Nord-Coréens n'étaient pas en train de rentrer dans le système, n'étaient pas en train de voler des bitcoins, n'étaient pas en train de s'emparer d'une partie.
Mais ça ne veut rien dire. Si je vous vole un lingot d'or, ce n'est pas l'or qu'il faut jeter à la poubelle.
Non, mais ça veut dire que concrètement, voler un lingot d'or, on comprend et on est capable de répondre à ça pour les populations qui utilisent leur...
Alors, si je vous vole un lingot d'or et que je pars avec, on ne peut pas répondre.
Non, mais j'entends bien, mais...
D'ailleurs, personne ne peut régénérer de l'or pour le remplacer.
Oui, j'entends bien, mais sauf que la leçon que vous retirez, c'est que vous allez le mettre dans un coffre.
C'est pareil pour le Bitcoin.
Sauf que dans le Bitcoin, ce n'est pas vous qui allez créer le coffre. Le coffre,
bah, si, justement, c'est le principe du Bitcoin. C'est pour qu'on peut créer son propre coffre sur mon téléphone avec rien du tout.
Oui,
mais si on possède sa clé privée, on possède la clé de son propre portefeuille sans intermédiaire.
J'entends bien, mais le cambrioleur, vous comprenez ce qu'il a fait, donc vous êtes capable de répondre. La personne qui est venue...
Bah, un hacker, on peut remonter le chemin, on peut retrouver...
Oui, il s'agit de partager sur le plan social. Encore une fois, n'importe quel individu comprend ce que ça veut dire qu'enfermer un lingot d'or, n'importe quel individu ne comprend pas ce que ça veut dire répondre à un hacker.
Mais je pense que la différence qu'on a, c'est que Jean-Marc, il regarde la situation comme une photographie et il dit, à l'heure actuelle, ça ne réunit pas les conditions. Et j'ai rien dit d'autre. J'ai dit, à l'heure actuelle, on n'a pas le consensus social. Mais notre divergence, c'est que je pense que Jean-Marc pense qu'on ne peut pas dépasser ce statut parce que les trois raisons qu'il a évoquées et que moi, je constate qu'en 15 ans, la tendance qu'on a vue, elle est monstrueuse en termes d'adoption. On a un truc, encore une fois, qui sort de nulle part, soutenu par personne, voire tapé par tout le monde, qui arrive à 500 millions d'adoptions, un pays qui en a fait sa monnaie légale, etc., etc. Donc, est-ce que le chemin est fini ? Non, mais est-ce qu'on a vu déjà un truc... Enfin, Internet a inventé dans les années 60, le premier milliard d'utilisateurs, c'est la fin des années 90.
Jean-Marc, pour vous, tout ce qui s'est passé en 15 ans là, sur le Bitcoin, cette évolution, c'est rien pour vous ?
Ce qui s'est passé en 15 ans, à mon avis, ça... d'abord, le fait qu'on a compris que ce n'était pas une monnaie. C'est-à-dire, si ça avait été une monnaie, que c'était un actif. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique qui était une logique de réponse par la technologie à la défaillance du système monétaire au travers de, effectivement, cette perversion qui a consisté à modifier les politiques monétaires et modifier les missions que devaient avoir les banques centrales, on est passé à l'idée que finalement c'est un objet de spéculation et c'est un objet qui permet...
Alors, aujourd'hui, le Bitcoin en France, en tout cas, on peut dire que c'est une réserve de valeur, si on y croit, parce qu'il y a une quantité qu'on connaît, qui est finie.
C'est l'usage primaire des Français, en tout cas.
Voilà, c'est ça, donc c'est une réserve de valeur. Aujourd'hui, c'est sûr que payer en Bitcoin en France, ça n'a que peu d'intérêt, puisque notre système monétaire fonctionne. C'est pas le cas dans d'autres pays. Mais ce que dit Alexandre, c'est que si on a un consensus social qui s'améliore dans les années à venir, il y aura une capitalisation qui sera plus importante. Le Bitcoin va devenir plus stable. Et dans ce cas-là, on pourra se rapprocher. Et
je dis un truc en plus, c'est que, en fait, même tout ce débat-là, d'une certaine façon, c'est un peu le débat sur le sexe des anges à Constantinople. C'est que, depuis 2021, il est tranché ce débat. Le Salvador en a fait sa monnaie. Donc c'est une devise en droit international. Merci, au revoir. Le code monétaire et financier, il peut dire ce qu'il veut. Le dollar n'est pas une monnaie selon le code monétaire et financier, mais pourtant c'est quand même une monnaie. Donc là, on a le même problème, c'est que on a maintenant, alors même que je pense que le débat juridique n'a pas beaucoup de sens, mais bon, soit rentrons dedans, au Salvador, c'est une devise. Donc on a même des députés, je pense à Jean-Michel Miss, qui a posé la question au gouvernement. Le Bitcoin ne répond plus aux caractéristiques d'un actif numérique dans la loi française. Il faut le reconnaître comme une devise. Pourriez-vous clarifier pour les contribuables français ? Le gouvernement n'a pas répondu. Il ne répond pas parce qu'il est gêné. Il ne veut pas admettre que c'est une monnaie. Mais c'est un peu, c'est comme dire Christine Lagarde dit qu'il n'y a pas d'inflation, donc il n'y a pas d'inflation. Bah non, elle a passé son temps à se tromper et à dire qu'il n'y avait pas d'inflation alors qu'il y en avait. En même temps, c'est son job qu'il n'y ait pas d'inflation. Donc, quand elle dit il n'y a pas d'inflation, c'est pour qu'on ne lui reproche pas qu'il y en ait. Donc là,
oui,
c'est
enfin,
pareil.
Il n'y avait pas d'inflation, elle avait raison.
Non, elle avait dit, je vois un profil qui ressemble à une bosse, et puis trois mois après, finalement, ce n'est pas là pour durer.
Oui, c'est ce qui s'est
passé. Puis ensuite, on est à 10%, et on a remplacé ça par de la dette publique massive.
C'est ce qui s'est passé, il n'y a pas d'inflation.
Il nous reste. C'est un autre débat, parce que pour Jean-Marc, il n'y a pas d'inflation. Il faut le savoir, là, c'est un peu compliqué, mais il nous reste deux minutes, Jean-Marc.
Oui, juste de remarquer.
Il y a l'aspect utilité sociale et environnement aussi.
Voilà, c'est que par rapport à l'acceptabilité sociale, il y a le fait qu'il y a une masse de critiques qui sont des critiques pas uniquement techniques et qui ne sont pas des critiques uniquement juridiques, mais il y a des critiques sur le mode de réalisation de ces bitcoins et sur le fait que c'est consommateur d'une énorme quantité d'électricité dans un moment où l'énergie devient de plus en plus chère, où la production d'énergie est de plus en plus expertisée, analysée.
Donc pour vous, Bitcoin pollue, je vous coupe, il reste très peu de temps. Alexandre, qu'est-ce que vous avez
Bitcoin
répondu à ça
Bitcoin est climatique.
Sur le fait que Bitcoin soit très énergivore et pollue.
Voilà. La première, c'est que le système fiat actuel est 100 fois plus, 1000 fois plus, 1 million fois plus climaticide, parce qu'encore une fois, c'est dans son ADN d'inciter à consommer. Donc vous pouvez faire autant de COP que vous voulez, ça ne sert à rien à partir du moment où le signal envoyé à tous les agents économiques partout sur la planète à toute heure de la journée, c'est qu'il faut consommer.
Jean-Marc est pour l'augmentation du prix de l'essence.
Système fonctionnerait si on avait un baril à 300 dollars. Là, effectivement, là, c'est normal. Sauf que 70% des exploitants de schiste aux États-Unis ne sont pas rentables et ça fait 15 ans que c'est le cas. Ils sont juste sauvés par l'État et la création monétaire. Donc effectivement, dans le système qui fonctionnerait, on aurait le baril à 300 dollars, mais ça voudrait dire détruire 30% de l'activité économique. Ce qu'il faudrait faire d'ailleurs si on veut revenir sur les 50 dernières années de Gabji. Pour la partie environnementale et Bitcoin, alors je redirige les gens vers un article, parce qu'il n'y a pas le temps, j'ai écrit un article qui s'appelle Bitcoin, une solution contre-intuitive au changement climatique. Donc déjà, sur le point de vue systémique, on revient sur une monnaie saine, rare, donc qui incite à l'épargne au long terme. Mais je voudrais conclure avec mon deuxième arme nucléaire, Bastia. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, que vous connaissez également, parce que c'est précisément ce qu'on a en ce moment avec le système fiat. Le système fiat nous dit, regardez, comme un peu le vitrier au début de ce livre, on dit, si on casse une vitre, la personne va dépenser 6 francs, l'industrie de la vitre se porte mieux. C'est super. Là, c'est pareil. Le système fiat vous dit, regardez, je casse la planète, mais c'est formidable parce qu'on crée de l'emploi et de la croissance. Donc, il faut regarder ce qu'on ne voit pas.
Messieurs,
je préserve l'emploi par rapport à l'épargne.
On va se refaire une émission parce qu'on n'a pas assez de temps, c'est dommage, c'est frustrant. On va s'en refaire une, mais je note, voilà. Un des livres de Jean-Marc Daniel, Il était une fois l'argent magique.
Voilà. Oui, aux éditions, c'est effectivement la trahison des banques centrales.
Aux éditions du Cherche Midi, si ça vous intéresse.
Un mystère pour moi. Il a le terreau fertile pour être un bitcoiner et il refuse de.
Et il va nous expliquer ça. Et aussi, Bitcoin et crypto-monnaie facile, écrit par Alexandre Sachenko et Claire Balva. Jean-Marc, que vous avez eu comme élève à l'ESCP. Pour vous, à la
Absolument, Mais
je rappelle souvent la phrase que vous m'aviez dite en cours, à savoir, un économiste, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir et ensuite qui doit expliquer pourquoi il s'est trompé.
Merci beaucoup.
C'est le début de mes cours.
Merci. Ah bah, bien sûr. Bah, merci beaucoup, messieurs. On refera ça très bientôt, une émission. C'était passionnant. Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School et éditorialiste ici à BFM Business. Alexandre Sachenko, aujourd'hui auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Merci de nous avoir suivis. Merci. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h.